les documents de la grenouille. Tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Retour sur le patio des entrepreneurs avec Robert Fouché. Robert Fouché est professeur des universités en sciences de gestion à l'Université d'Aix-Marseille. Il était intervenu lors de la table ronde qui avait pour titre « Quel nouveau modèle économique pour la culture en PACA ?» Invité au plateau monté pour l'occasion, il revient sur le contenu de son intervention.
Bonsoir Robert Fouché.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université d'Aix-Marseille et puis vous avez animé une table ronde qui a eu lieu juste avant que nous prenions ce direct qui avait pour titre « Quel nouveau modèle économique pour la culture en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?» Et vous étiez étonné quand vous avez ouvert cette conférence de vous dire « Ah, d'habitude, les entrepreneurs, lorsqu'ils se réunissent, ils n'invitent pas des universitaires. » Mais je me suis dit « C'est fini ça ?» Maintenant, les universités, les entrepreneurs, ça va ensemble.
Oui, en tout cas, merci d'abord à Radio Grenouille de m'accueillir, enfin pas personnellement, mais d'accueillir en tout cas cette manifestation. Je salue au passage mes étudiants qui vous écoutent souvent. Je vous écoute aussi. Ils sont peut-être entre Aix et Marseille aujourd'hui. Une radio dynamique, une radio qui diffuse une musique qui m'intéresse, même si je suis ancré dans une musique plus classique, une musique, on veut dire, non pas d'un autre siècle, mais une musique qui peut aussi se moderniser. Et je vous encouragerai à voir les nouvelles interprétations de la musique classique par des jazzmen, par des personnes du monde de l'électronique qui me paraît tout à fait intéressant. Donc un salut particulièrement à Radio Grenouille que j'apprécie sincèrement et je vous le saviez pas parce que je vois vos sourires se manifester, je l'ai fait spontanément. Alors vous me posez la question effectivement université et entreprise. Hein. Alors on a souvent été considéré comme étant déconnecté du terrain. Finalement faisant des formations pour nous-mêmes mais non pas pour le marché. Pour ma part, en tant que gestionnaire, j'ai été pas souvent bousculé par cette démarche-là ou par cette pensée puisque la gestion quand même se rapproche de l'entreprise. Pour autant, le lien université-entreprise n'est pas un lien facile. Comme si finalement, une fois formé, on oubliait ce qu'on avait été formé. Peut-être débarrassé de l'enseignant qui vous a agacé, des enseignements qui vous paraissaient pas utiles. Pour autant, aujourd'hui, on retrouve quand même ces liens, on les construit par des stages démultipliés, par des formations à l'apprentissage et des entrepreneurs qui commencent à prendre, je dirais, la voie allemande. Je ne vais pas rentrer dans le débat France Merkel ou Hollande Merkel, mais en même temps, on a vu l'Allemagne depuis fort longtemps lancer cet apprentissage. Donc, rassuré, mais en même temps, lançant quelques pics pour exciter, non pas pour attaquer.
Mais si ce lien, il n'est pas un lien facile, c'est aussi un lien difficile, le lien culture et entreprise.
Alors là oui, culture et entreprise, comment vous dire ? Cette culture a toujours été considérée finalement comme une cerise sur le gâteau un peu partout. Mais comme il n'y a plus beaucoup de gâteaux, vous avez compris que la cerise avait du mal à se poser. Et l'étudiant lui-même, ou le jeune que je continue à côtoyer, quel que soit mon grand âge, le jeune que je côtoie dans les nouveaux espaces culturels, hein, je suis passionné de street art, je vais effectivement voir les graffeurs, et non pas les taggeurs, on s'aperçoit que finalement, l'étudiant n'a plus cette curiosité, le jeune n'a plus cette curiosité, même d'aller voir des jeunes créateurs, comme si finalement le MP3 calé dans l'oreille pour essouffir, alors qu'il suffit quelquefois d'entendre Radio Grenouille pour être intéressé à d'autres choses, donc je vous félicite au passage. Donc une culture qui est quelquefois un peu détachée de l'espace sociétal, parce que le cinéma, parce que la vidéo a facilité les choses, comme si on accédait à la culture par une facilitation de la relation. L'entreprise, par la même, n'a pas considéré comme centrale. Est-ce que, aux côtés de l'autorité hiérarchique dans la gestion des ressources humaines, on ne pourrait pas y mettre quelques espaces culturels qui pourraient peut-être faciliter beaucoup de choses dans la vie de chacun et amener à une efficience, une joie de vivre dans l'entreprise. Pour ma part, dans mon département, dans mon institut, la culture est présente. Elle est présente au quotidien. Même un morceau de musique dans les bureaux me paraît être fondamental. Une écoute de la radio n'est pas autorisée, elle est obligatoire de temps en temps pour pouvoir essayer de vivre un autre espace que le téléphone et la relation dure de l'administration. Donc oui, elle n'est pas installée.
Vous venez déjà de pointer la manière dont les entreprises peuvent tirer profit de la culture, mais qui n'est pas un profit monétaire, qui est un profit de culture d'entreprise. Et je disais, cette table ronde a pour titre « Quel nouveau modèle économique pour la culture ?» Et là aussi, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que cet intitulé, je le vois depuis maintenant 10 ans.
Oui, on est toujours dans le nouveau, par définition, puisque hier, c'est le passé. Donc on est toujours dans un nouvel espace, on est dans une nouvelle relation, on est dans un nouveau bonheur. Et on est peut-être dans un nouveau modèle. Alors, le nouveau modèle, il a quand même une signification. Bon, si on accepte que le nouveau, il existe depuis 5-10 ans. Il est nouveau dans la mesure où la révolution, je dirais, de vous-même, des médias en général, des supports, des supports de diffusion de la culture ont complètement changé. Je suis d'une époque où... elle était matérialisée relativement facilement. Aujourd'hui, elle est immatérielle, elle est rapide, elle est soudaine, elle est captable à chaque instant de la journée et de la nuit. Elle est par les réseaux sociaux auprès des jeunes, mais nous aussi, les seniors de la société, accédons à ces réseaux sociaux. Et cette culture-là devient quelquefois très diffuse. Donc oui, c'est nouveau. C'est nouveau aussi parce que nous sommes dans une société qui vieillit. Et donc, il convient de garder le senior jeune. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. On l'enferme avec son argent dans des espaces quelquefois un peu vétustes. Donc j'essaie toujours de garder ce lien avec cette jeunesse, parce que ça fera une société à deux temps, une société qui travaille et pour finalement payer les retraites que vous allez bientôt faire en ce qui me concerne, pour payer les retraites. La moitié de la France travaille pour l'autre moitié. Et donc peut-être qu'il y a là aussi un nouveau moment. Enfin... parce que je ne crois pas à un développement culturel pensé par des intellos. C'est l'universitaire qui vous le dit. Mais un univers culturel pensé par, avec une finalité qui est le consommateur. Je dis consommateur, je n'ai pas dit usager. C'est un consommateur. Et ce consommateur-là, on a besoin d'attendre ses attentes, de comprendre ses attentes, de voir quels sont ses besoins, ce dont il a envie et à quel moment.
Parler de consommateur, c'est nouveau. Avant, on parlait des publics. Maintenant, on parle de consommateur.
Ça ne me gêne pas. J'ai créé un institut qui s'appelle l'Institut de Management Public. Et on m'a dit, mais vous vous trompez, vous prononcez mal. Moi, je disais management public. Elle me dit, c'est un terme anglais. Il faut dire management. Non, c'est un terme français. Donc, je ne dis pas performance, je dis performance. Effectivement. Et donc, quand je dis consommateur, pour moi, ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que consommer ? Consommer un bon vin, consommer un bon produit, ça deviendrait vulgaire, parce que on consommerait de la belle culture, ou qu'on consommerait des moments radiophoniques avec Radio Grenouille. Non, c'est un plaisir que de consommer votre radio aussi.
Les prix ont été donc remis à Clara Massin et Boyerne Kotschal, je ne sais pas si je prononce bien, mais ils ont eu ce prix suite à un projet, Robert Fouché qui est toujours avec nous, suite à un projet qui s'appelle Chicago Hotel, et c'est un projet d'une auberge multiculturelle qui offre, comme je le lis, une auberge qui se veut un lieu multiculturel, un espace d'échange entre les voyageurs et les habitants. Voilà. Et je me disais, ce genre de projet, il est devenu possible parce que aussi... ce qu'on a appelé longtemps les auberges de jeunesse, où un certain nombre de lieux qui étaient plutôt financés par la puissance publique ne le sont plus financés et que du coup, bah, c'est des initiatives privées qui prennent le relais.
Oui, je pense qu'on est toujours dans des... Le système français reste toujours dans le système des politiques publiques, même si elles diminuent. Il y aura toujours historiquement l'exception française de cette volonté culturelle installée dans l'esprit public, même si aujourd'hui on voit des financements se diminuer. Pour autant, on peut se féliciter, évidemment, de voir des initiatives privées qui intègrent des pensées alternatives. Quel plaisir d'aller dans un hôtel, oui, mais quel plaisir aussi de se retrouver dans un espace où l'accueil devient personnalisé, où l'accueil est finalement un accueil où on croise d'autres clients qui viennent se présenter, où l'hôtel reste un endroit plus intimiste et quelquefois avec un mode de vie plus interne à l'hôtel. Donc oui, effectivement, des initiatives privées qui se mettent à l'écoute et à la demande et aux attentes d'un public qui n'a pas envie de répondre à des propositions uniquement de mondialisation. Je respecte évidemment toutes les grandes chaînes internationales d'hôtels, mais pour autant, à Marseille, nous avons de très beaux exemples, d'ailleurs d'anciens étudiants qui ont créé des maisons d'hôtes, des lieux d'échange pour jeunes qui sont nos anciennes auberges de jeunesse.
Mathéo.
Tout à l'heure, lors de la table ronde, a été évoqué pendant un certain temps, notamment par Dominique Bluzet, ce renversement, selon lui, et d'autres, entre une politique de l'offre, notamment dans le cadre des politiques culturelles ou artistiques des années 80 en France, pour ne citer que celle-ci, et qui aurait basculé, ou il y aurait une nécessité de basculer sur une politique de la demande. On l'a un peu évoqué avec vous précédemment. Jusqu'à quel point ça peut tenir ? On peut comprendre que les artistes, les créateurs doivent être attentifs à leur environnement, à leur contexte, voire à faire un peu de marketing, mais si on n'est plus que dans une politique de la demande, et que l'offre ne précède pas une demande, jusqu'où on va aller comme ça ? Ou jusqu'où ça peut aller comme ça ?
Alors, oui, j'entends. Je veux dire, une première chose, si l'offre est une offre inconsidérée, sans tenir compte des évolutions démographiques, sans tenir compte des évolutions même de société, au sens de la pensée sociétale, au sens de la structuration sociétale, je pense que la demande ne sera pas satisfaite. Ça, c'est un premier point. Si des groupes comme IAM, si des groupes comme Mars Attack développent aujourd'hui sous une forme d'offre des musiques qui sont celles, je dirais non pas d'une révolte, mais en tout cas d'une réflexion de la société, particulièrement dans les quartiers ou dans les espaces urbains, il n'y aurait pas eu de consommation de cette musique-là. Et donc les artistes eux-mêmes l'anticipent par la création. Comment peut-on être des créateurs en pensant uniquement au passé ? Je pense qu'il y a des créateurs qui sont dans le présent et vers l'avenir. Donc je ne suis pas inquiet sur cette offre-là. En revanche, je deviens plus inquiet sur des offres conventionnelles qui seraient d'offrir, par exemple, une grande salle de spectacle, plus de 1242 personnes, parce qu'on pense que c'est, depuis 20 ans, la bonne solution. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit de 900 personnes ? Ou qu'elle soit alternative ? Donc il y a aussi de l'offre des salles. Et puis pour terminer, je ne crois pas que la démultiplication d'une offre culturelle va augmenter la demande si on n'anticipe pas les moments de la consommation. Or, les temps de liberté que nous avons dans nos espaces urbains ne sont plus les mêmes qu'avant.
Donc, ce que vous êtes aussi en train de dire, c'est qu'à partir du moment où on réussit à anticiper, on peut rester sur une politique de l'offre.
Exactement. Merci, j'apprécie effectivement votre... C'est exactement ça, c'est exactement ça.
J'ai l'impression qu'il y a finalement deux choses. Il y a d'une part une crise de l'industrie culturelle, car il a été aussi évoqué dans cette table ronde de la mutation. Et cette crise de l'industrie culturelle veut dire terminer les produits de masse, d'une certaine manière, puisque vous le dites, ce n'est plus la question aujourd'hui d'ouvrir une salle de 3000 places, mais c'est de toucher un certain nombre de publics bien précis, sectorisés, comprendre les niches, d'une certaine manière. Et puis, autre chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire passer de une politique de la demande et non plus une politique de l'offre. Alors, sur cette mutation culturelle, comment elle s'évalue aujourd'hui ?
Alors, je ne veux pas revenir... Enfin, oui, je vais revenir. Je vais revenir sur ce que vous avez dit. N'oublions pas quand même que les grands majors de la culture détiennent, en tous les cas, pour les 4-5 d'entre eux, 98% de la musique dans le monde.
Elles sont en crise aujourd'hui.
Elles sont en crise, mais il n'empêche qu'elles détiennent 98% sur une musique mondialisée. Une musique mondialisée qui va du produit artistique, des produits annexes aux produits artistiques, jusqu'aux productions dans les espaces musicaux. Donc moi, je pense que elle avancera toujours avec plus de raisons parce qu'elle est en crise, parce qu'il y a effectivement des évolutions. Il y a aussi un droit qui arrive, un droit de l'auteur qui va aussi bousculer beaucoup de choses. Mais de l'autre côté, je crois aussi à la culture territoriale. Comment penser que cette culture-là, qui est une consommation immédiate sur le territoire, puisse disparaître simplement parce que nous pouvons bénéficier jour et nuit d'espaces musicaux, d'espaces audiovisuels. Si votre radio existe, c'est qu'elle est en train de narrer une réalité locale. Et cette réalité locale intéresse vos spectateurs, intéresse peut-être ces jeunes créateurs, en tous les cas les informe de cette création. Est-ce que vous pensez que sur une grande radio mondiale, il pourrait y avoir le même type d'information, en plus elle serait en anglais.
D'ailleurs, en ce moment, Madame Elisabeth Viola, qui est directrice interrégionale de la Caisse des dépôts et des consignations, est en train de remettre un prix Talent des cités à Jamila Hamaïda, que nous recevrons tout à l'heure, pour un projet qui s'appelle Foya Jam Street Painting. Nous la recevrons tout à l'heure pour aller plus en détail sur ce projet. Robert Fouché, vous aviez aussi ouvert cette table ronde en précisant que vous constatez une baisse de la pratique amateur.
Vous avez bien écouté, effectivement, vous avez en tous les cas entendu mon angoisse. C'est-à-dire, au moment où, on a maintenu des conservatoires, on a quasiment abandonné dans le secondaire et au niveau des collèges la pratique musicale, si elle existait, toujours est-il. De mon temps, nous avions un professeur de musique pour tout le lycée tiers. Et je ne suis pas non plus du début du siècle dernier, mais je suis des années 70. Donc ça veut dire, dès lors, on avait déjà abandonné, dès le collège, la culture musicale. Comment, restant la culture musicale, certains parents ont réussi à accompagner, quel que soit les coûts sociaux, les enfants dans les conservatoires. Mais elle était aussi incitée, de manière amateur, et je l'ai moi-même pratiquée, parce que j'ai été intéressé par, à un moment, la guitare, puis après, par du violoncelle et après la contrebasse. Aujourd'hui, cette pratique a disparu parce que pour faire de la musique, il faut aussi à un moment en être suscité. Pas uniquement par l'oncle qui existe là, mais par un enseignement. Et c'est cet enseignement qui manque. Et je crois que je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de bouger le piano plutôt que le tabouret. Oui, on bouge le piano, on essaye d'adapter à la culture, mais aujourd'hui, on devrait réinstaller définitivement. C'est une grande faute de l'État. Grande faute de l'État. Un véritable programme de formation dans le domaine de la sensibilisation culturelle et artistique.
Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi constater que cette pratique amateur, elle s'est déplacée? Je pense par exemple, nous aurions voulu recevoir sur cette émission Primi, pôle transmédia méditerranéen, qui travaille sur les usages des nouvelles technologies, croisement entre nouvelles technologies et création artistique. Il y a des usages innombrables aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui croisent la créativité. On peut parler de pratique amateur à cet endroit?
Vous avez tout à fait raison. Elle n'est peut-être pas aujourd'hui spécialement recensée. Je veux simplement dire que la musique restera la musique. C'est-à-dire que ça réclamera un minimum d'une compréhension du solfège. Les plus grands chanteurs, les plus grands musiciens, quel que soit leur mode d'entrée, sur de la musique électronique quotidienne ou sur de la musique classique, ont une connaissance de la musique. Il faut bien aussi, c'est pas parce que vous êtes accompagné aujourd'hui d'un système électronique que l'harmonie va changer, que le la va avoir un autre son et que le do en aura un autre. Donc il faudra aussi qu'on les recense, mais avec des valeurs artistiques qui existent.
Comment vous analysez le fait qu'un organisme comme l'Union régionale BGE Grand Sud, qui accompagne la création d'entreprises, de jeunes entreprises, se disent progressivement, allons vers la culture, peut-être vers d'autres champs créatifs. Est-ce que c'est simplement un effet d'aubaine Marseille-Provence 2013 ou un rapprochement comme ça entre les entreprises et des opérateurs culturels? Ou est-ce que ça tient peut-être à une vision politique?
Oui. Bon, connaissant le président, je sais qu'il est attaché à l'espace culturel, mais ce n'est pas ce qui fait son travail et ses propositions aujourd'hui. Je pense d'abord qu'il y a, je ne sais pas un effet de mode, mais un effet de repositionnement de la culture dans la société, qui a été d'ailleurs interrogé particulièrement par Marseille-Provence 2013, évidemment, ici à Marseille, mais ça a été aussi interpellé lors des grands événements méditerranéens, où on s'est aperçu que finalement cette jeunesse avait besoin de retrouver une identité culturelle et de converser culturellement avec d'autres pays. Et que la culture n'avait pas comme seul effet le produit que l'on peut apercevoir, mais a une valeur sociétale beaucoup plus forte, une valeur de consolidation dans les espaces, dans les quartiers, de consolidation dans la relation familiale, et ça ira jusqu'à, ça peut aller jusqu'à, je dirais, l'accompagnement d'une image entrepreneuriale. Et d'ailleurs, certains font du marketing autour de cette image culturelle. Vous avez bien vu toutes les grandes publicités. Si vous y écoutez les musiques et si vous voyez les personnes qui interviennent, sont évidemment dans un espace culturel et artistique. On ne confie pas ça à n'importe qui. Donc je pense qu'il y a là aussi, demain matin, si l'on intègre que cette culture-là n'est pas uniquement ce que l'on veut bien voir sur les scènes ou ailleurs, mais a une valeur de construction de nos sociétés dans des espaces urbains ou en difficulté ou en tension, ou quelquefois en désarroi, ou quelquefois en déprime, évidemment les entreprises vont pouvoir se créer et apporter autre chose que la seule culture, mais une construction sociale.
J'ai je sais pas, excusez-moi, peut-être le gros mot que ça peut avoir aux oreilles de certains, mais il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'intitule Le nouvel esprit du capitalisme. Et ce nouvel esprit du capitalisme, il est nommé comme capitalisme créatif. Alors, il n'est sans doute pas étonnant qu'aujourd'hui les entreprises se rapprochent du monde des artistes, non ? Car la créativité est un des moteurs importants aujourd'hui quand même de notre société, de l'économie contemporaine, non ?
J'aurais du mal à vous controverser par une analyse marxiste. Et je ne suis pas sûr que l'analyse marxiste de la créativité culturelle puisse aujourd'hui encore avoir lieu, même si elle était en accompagnement des systèmes éducatifs. Donc évidemment, mais je ne raccrocherai pas, j'en suis navré, non pas d'aller contre votre avis, mais de celui que vous me citez, j'irai contre l'avis, effectivement, de rapprocher uniquement créatif à capitaliste. Est-ce que seul le capitalisme permet la créativité posée à tous les pauvres créateurs qui sont le plus souvent pris au bon moment par un système capitaliste pour pouvoir ensuite être produit sur le marché. Je vous dirais même que les plus grands compositeurs créatifs sont aujourd'hui inconnus. Et donc on les connaîtra une fois morts.
Robert Fouché, vous êtes un grand amateur de musique, n'est-ce pas ? Car je crois que vous êtes président de Marseille Concert.
Ah, tout à fait, tout à fait. Après avoir été président des concerts d'Aix et après avoir accompagné ma mère qui avait créé le festival des Amis de Saint-Victor, donc un Marseillais qui est venu reprendre Marseille Concert où je développe des concerts à la Criée avec Bacha Makaïev, que je salue ici, qui est une femme remarquable, une femme de talent et une femme dans la musique puisqu'elle a fait le conservatoire à Marseille. Je le développe aussi au Mucem. Demain soir nous avons un concert qui célèbre le compositeur Henri Tomasi, compositeur corse, marseillais, contemporain, qu'on découvre, et il est mort effectivement il y a quelques années, qu'on découvre. Donc passionné de musique, mais tout autant, il y a peu de temps, j'ai invité la Municipale Balkanica, vous avez compris que c'était, je dirais, des personnages que j'avais rencontrés en Italie, mais dans les Balkans aussi. Et ils nous ont donné une autre version, une salle debout, qui dansait, qui était jeune. Donc la musique classique, lorsqu'elle est bien donnée, ou elle est appréciée, mais lorsque les autres musiques sont aussi données avec autant de talents musicaux, je l'apprécie, je la développe dans mes concerts.
Robert Fouché, merci d'avoir passé cette première demi-heure avec nous pour ce passéo des entrepreneurs et puis pour nous avoir parlé donc des nouveaux modèles économiques pour la culture en région. PACA. Merci beaucoup Robert Fouché.
Merci à vous, j'ai passé vraiment un très beau moment. À bientôt j'espère, au revoir.
Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.